investissement de 20 milliards. On a l'impression, si on écoutait un certain nombre d'Africains, ils sont nombreux, que la Russie, c'est le meilleur pays du monde qui est là pour les sauver. Et en réalité, rien que la France, c'est 60 milliards. Donc c'est déjà trois fois plus que la Russie. Et pourtant, la France est sortie des pays dans lesquels elle investit, et en plus, elle investit différemment que les Russes. Ça veut dire que les Russes, dans les 20 milliards, ils vendent des armes, ils donnent aussi des pots de vin à des dictateurs, et ils leur fournissent des gardes du corps pour les protéger de la population. La France, elle, elle achète des choses qui sont produites par les Africains, et donc c'est du commerce, comme on dit, c'est du commerce équitable. Et avec ça, ça c'est la réalité économique. Et quand vous avez cette réalité économique, ça fait encore plus mal cette réalité que Vincent nous a décrit avec ces Africains qui participent à la guerre.
Pour compléter les propos de Sergueï, il y a deux ans, pour une société privée, donc on a travaillé sur les panels au Tchad de jeunes Tchadiens. Avez-vous une bonne image, oui ou non, de la France? 8% des jeunes Tchadiens avaient une bonne image de la France et 85% avaient une bonne image de la Russie. Ce qui ne repose sur absolument aucune rationalité. Essentiellement sur de l'image qui est véhiculée à travers TikTok et les réseaux sociaux. Vous voyez donc l'étendue des dégâts de la désinformation.
Pour lancer un peu le débat, je voudrais poser une première question, c'est, ça pose à vous deux, à vous trois d'ailleurs, est-ce que la France, qui est une cible de la Russie, a une porosité particulière? Alors, on comprend qu'elle soit attaquée parce qu'elle a une position politique qui l'amène à se poser soit inconfortable pour Vladimir Poutine, que la position de la France soit un petit peu le leader en Europe sur l'opposition. Mais est-ce que la France, structurellement, psychologiquement, la société, a une porosité particulière qui en fait un champ de bataille particulier pour les Russes?
Pour moi, la réponse est clairement oui. Moi, côté russe, je vous dis clairement c'est oui. Parce que donc, la France gaullienne était déjà anti-américaine, forcément. Donc, en fait, déjà, du temps de l'Union soviétique, l'Union soviétique s'est bien installée en France. La France, à cette époque-là, avait 25% qui votaient communisme. Donc, il y avait aussi les relais du parti communiste qui était sur toute la France. Et après, le KGB a investi dans tous les partis politiques, mais surtout dans les petits partis d'opposition qui montaient, c'est le Front National, ou la gauche extrême, et donc ils se préparaient en fait pour n'importe quel changement politique, d'où d'ailleurs c'était entre autres, ma mission quand j'ai intégré l'ENA, c'était aussi de pénétrer cette élite française qui, en fait, dans le panel de l'ENA, vous avez tout le panel politique, hein, il y avait les socialistes, les communistes, il y avait même les communistes à l'ENA. Les politiques ont compris qu'il faut se préparer à n'importe quel changement. Comme ça, ils ont le pied dans chaque parti. Plus toute une part culturelle avec le Dostoïevski, Tchaïkovski et compagnie, qui sont très bien vus par la société française. Et donc, voilà, clairement, c'est oui. Et ça s'aggrave avec le populisme, les partis populistes de maintenant, parce qu'en fait, si vous regardez l'Assemblée nationale, c'est qui a la majorité dans l'Assemblée nationale française.
Est-ce que nous avons des porosités? Oui, très clairement. J'avais eu à examiner les articles contenus à Cambridge. Je constatais que en France, on prend nos collègues italiens, allemands aussi, avaient été sacrément infiltrés quand même. en Russie ou bien les Russes en France, vous allez chercher la paille, c'est la matière. Qu'est-ce que vous pouvez exploiter? Voilà. Est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que vous avez un Russe qui est pro-français, qui passe ses vacances, je ne sais pas moi, sur la côte d'Azur, ben voilà, c'est une cible. Inversement, vous êtes un Français, vous êtes le pro-Poutine, bon ben voilà, vous êtes potentiellement une cible, peut-être que vous pouvez apporter quelque chose d'intéressant. Et surtout, ce qui, disons, aidait beaucoup, non seulement l'état secret russe, alors ça, c'est un ancien du KGB qui a raconté ça dans ses mémoires, c'est Valentin Spidak. Alors, je suis sûr que sa vie, il est connu parce qu'il était en poste à Paris de 1979 à 1983. Il disait lui-même comment il a arrivé à avoir plein d'informations sur la vie politique française. Le type n'était pas bête. Hein. Il n'allait pas voir le Parti Socialiste pour savoir ce qui se passait chez les socialistes. Ah non. Il allait voir les socialistes pour leur demander sur le RPR, donc sur l'adversaire. Et inversement, il allait voir les gens du RPR sur le Parti Socialiste, les communistes, etc., etc. Et puisque le monde politique est un Français et digne d'un petit village gaulois, et bien comme ça, il avait plein d'informations. Voilà. Rappelez-vous aussi une chose, quand nous parlons d'ingérence, de renseignement, c'est pas que recruter les taux. Il n'y a pas que ça. Parfois, le renseignement, c'est du one shot. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes un officier du renseignement dans un pays avec technologiquement, disons, avancé. Peu importe, France, ce que vous voulez. Vous recevez une commande de votre centrale. Veuillez vous renseigner sur tel procédé technologique, parce que tel pays voulait le mettre au point, cela nous intéresse. Parfois, pas forcément d'aller recruter une personne dans la future question. Vous êtes beaucoup plus simple. Interpellez avec l'ingénieur en question qui va vous dire oui, effectivement, nous avons travaillé dessus. Ça a été avéré irréalisable, donc nous avons abandonné. Voilà. Pas d'histoire, pas la peine de recruter une personne et de penser du temps et de l'argent. Et les Russes, ça sert parce qu'ils peuvent avoir des officiers très bien formés. Et puis, les combattants peuvent très bien parler français. Juste, désolé pour l'anecdote, je. Vous allez tomber de votre chaise en général. Quand je suis à Moscou en 2019 pour interviewer des personnes pour ma thèse, je trouve sur un institut une personne qui pourrait répondre à mes questions. Je contacte l'institut et la personne, à ma grande surprise, m'appelle très vite dans un français parfait. Je l'attends rendez-vous tel jour, telle heure, à telle sortie de métro à Moscou. Je la vois monter une marche, je vois son regard, je me dis. C'est pas une personne des affaires étrangères, ça sent un ancien état. Et je me revois quand nous asseyons à table pour discuter, je me dis, mais qu'est-ce que je suis con? On l'a foutu dehors de France en 78 pour l'espionnage. Et lui-même commence à m'en parler, oui, c'était un quiproquo. Depuis, je suis interdit de séjour en France, mais vous étiez au KGB. Non, ah, d'accord. Parler français magnifiquement. Non, je suis certain, il était derrière ce micro. Je pense que l'embranche renseignement scientifique et technique. Et c'était en 78, quand je l'ai rencontré, c'était 2019. 40 ans, il parlait français magnifiquement. Alors je peux à peine imaginer quand certains sont en poste, les rues sont en poste à l'ambassade de France, en France actuellement.
Oui, à propos des institutions en poste, on pense qu'à peu près. 35 et 40% du personnel diplomatique russe en fait est dédié au travail de l'espionnage en France à peu près, ce qui est tout de même considérable. Est-ce que la France est plus ciblée que les autres? Je ne pense pas. Les sociétés occidentales européennes sont ciblées en général. Le premier grand exemple d'opération d'ingérence et d'influence à l'occasion d'une élection, c'est à l'occasion du Brexit, évidemment. Pour fracturer l'Union européenne et détacher les Britanniques de l'UE. Je dirais que partout où le populisme gagne, effectivement, c'est quelque part nos ennemis qui l'emportent. Et à l'heure actuelle, la vie politique française, elle est malheureusement dominée ou agitée par des extrêmes. Et des extrêmes qui, permanence, en fait, prennent des positions politiques souvent favorables à nos adversaires et à nos ennemis. Donc, ils tirent des balles, ils tirent des buts contre leur camp, contre la France en permanence. Maintenant, c'est vrai que la France a pris le parti et le courage de clairement assumer son rôle d'allié auprès de l'Ukraine, en fournissant d'ailleurs un effort missilier important à travers l'escale, notamment en les fournissant très rapidement aux Ukrainiens. nous honorer en fait que nous pouvons accueillir. Voilà, je pense que on ne s'en rend pas compte, mais oui, nous sommes déjà une nation quelque part engagée dans un conflit. Alors effectivement, un conflit qui n'emporte pas vraiment le nom, mais nous sommes attaqués par nous, nous sommes agressés.
Bien évidemment, je suis parfaitement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais on aura tendance à croire qu'il n'y a que les extrêmes en fait qui sont méchants et qui travaillent pour Poutine. Là, j'ai jeté une énorme pierre dans la mare, dans l'institution militaire, parce qu'en fait, ce que j'ai constaté, moi encore, du temps de l'Union soviétique, c'est que les militaires français sont doucement russophiles. Et c'est une tendance générale. Ça veut dire que j'étais tellement bien accueilli par tous les militaires français que j'ai rencontrés et je continue tellement bien d'être accueilli par les militaires et les policiers et les plus français. Ils sont doucement russophiles.
La russophilie, oui.
Ah.
On aime tous Tolstoï, c'est pas le
choix. Oui, mais sauf que. Non, mais bien évidemment, c'est pas ça. Mais ça crée un terreau pour quelqu'un qui peut manipuler. Il sait utiliser ça. Et donc, et voilà. Et en même temps, c'est quelque chose. Pourquoi ça me pose un problème, même de le dire? Parce qu'en même temps, les gens sont sincères, en fait. C'est, ils ne sont pas des traîtres pour la France.
Pour modérer quand même le propos de Sergueï, c'est qu'effectivement, il y a une tradition plutôt pro-russe, mais pas pro-poutinienne. Quand même, la grande qualité des armées, c'est la discipline républicaine. Il ne fait aucun doute en ce qui concerne l'exécution du travail des armées. Elle se fait de toute manière en parfaite cohésion avec la politique étrangère de son pays qui est menée. Et ça, peu importe à la limite les convictions individuelles. Nous avons la chance quand même de vivre dans un pays où l'armée est un pilier de notre République et un pilier vraiment indéfectible, un pilier solide. C'est important de le préciser après qu'il y ait quelques sentiments pro-russes chez certains. C'est peut-être le cas, mais moi je constate quand même que nos armées, elles sont engagées en première ligne et en Roumanie et en Estonie. Qu'elles sont prêtes à exposer un tel problème et qu'elles le font sans aucun intérêt.
Ok, merci. Alors, avant de lancer, j'ai pas une deuxième question. On a parlé surtout des qualités offensives des Russes. On a dit qu'il faut qu'on apprenne à faire la même chose. Et sait-on ce qu'on est capable de faire? Alors, c'est un combat, on mène un combat asymétrique ou dissymétrique? Donc, la symétrie, c'est vraiment le faible fort, etc. C'est-à-dire qu'on est carrément dans le coup. La dissymétrie, c'est avec des moyens similaires, mais peut-être moins offensifs, etc. Et puis la symétrie, est-ce qu'on le rend plus offensif? Voilà,
Je ferai pour ça, c'est très difficile de faire des opérations d'influence en Russie même, car tout ce qui concerne les faux sites internet, ils en font contre nous. Mais ils ont aussi eu des cas qu'ils ont visés. Donc ça, ils savent faire, ils savent les détecter. Ils ont aussi bloqué des sites internet qui les gênaient, les wiki, etc., pour éviter justement les informations qui sont gênantes. Je passe aussi sur les personnes qui sont interpellées en Russie parce qu'ils sont contre la guerre. Alors là, vous avez les lois de l'étranger contre eux, la loi de contre l'extrémisme, la loi de contre le terrorisme, et en passant, la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme en Russie a été remise à jour, c'était en décembre 2024, qui était quand même assez dur. La seule manière, si vous voulez attaquer, alors, pour la possibilité de soutenir les Américains, vous envoyez clandestinement des livres. Bon, je ne sais pas si ça peut, hein, peut-être, vous avez un grand roman qui partait à l'étranger, on serait circulé en Russie, ça peut aussi, comme ça, apporter des petites failles. Sinon, il reste aussi, viser ce qui concerne les pays périphériques, donc guerre de l'information, qui mise sur ce site-là. Mais les Ukrainiens, ils le font déjà. Hein. Je vois aussi des fausses informations que les Ukrainiens ont balancées. Parfois, c'est cherché, mais parfois, pas du tout. Parfois, c'est très amateuriste. Il y a y a des côté récents aussi, c'est pour ça. Parce que par exemple, quand on voit par exemple les pays dans l'Azerbaïdjan, pas l'Azerbaïdjan, qui se détache petit à petit de la Russie, est-ce qu'on peut considérer que
Le problème, c'est qu'un, ils ont l'habitude de parler russe dans ces pays, alors le Kazakhstan, maintenant, je crois que vraiment, ils veulent supprimer la langue russe ou revenir à l'alphabet latin, enfin, il y a. Oui, mais la population, généralement, parle la langue, et surtout, l'un des principaux canaux qui s'est déroulé, bah, c'est le renseignement. Or, quand je revisais les interviews de Sergei Beseda, qui était patron du 5e service du FSB, jusque de l'âge 2021-2025, enfin maintenant il est conseiller de l'Alta du FSB, clairement, nous travaillons surtout avec quel service? Avec les pays de l'Union soviétique. Parce que, à l'issue de travailler ensemble, à l'issue de la langue, etc., etc. Ça ne détache pas facilement, et puis surtout, comment vous voulez détacher? Vous allez, si vous voulez détacher d'un point de vue théorique, c'est non seulement des rapports matériels, mais aussi l'économique, le politique, etc., etc. Or, c'est ça qui est compliqué, par exemple, avec les Kazakhs. Quand nous sommes approchés des Kazakhs, c'était à l'époque de Sarkozy. Moi, j'avais un militaire français qui me disait que ils faisaient leur diva, parce que tout le monde allait vers eux. Donc, ils avaient l'embarras du choix, parce qu'il y avait les Russes, les Américains, les Français, tout le monde qui leur courait après, à l'époque. J'ai bien dit à l'époque. Voilà.
Donc, pour l'influence des Russes dans les anciens pays du SS, elle est en train de disparaître. Et de disparaître d'une manière assez intéressante, parce que, en fait, l'Asie centrale, le Kazakhstan, ils sont maintenant sous la houlette de la Turquie, d'un côté, parce que la plupart de ces pays sont turcophones. Donc, il y a un organisme pan-turc. Linguistique en fait qui se réunit tous les ans et qui commence à les infiltrer en fait par les Turquies. Et de l'autre côté, il y a la Chine. Le Kazakhstan, Tokayev, d'ailleurs, parle chinois, il a fait ses études en Chine, il a travaillé en Chine, il était diplomate, grand diplomate d'ailleurs, il était à Genève aussi pendant 5 ans au poste de secrétaire général adjoint des Nations Unies. Et en 2023, il a obtenu de Xi Jinping la grande déclaration comme quoi maintenant le pays qui assure la protection du Kazakhstan et la garantie de sa sécurité extérieure, c'est la Chine. Mais en même temps, le Kazakhstan, c'est un pays qui a 7000 km de frontière commune avec la Russie, qui a sur la population de 20 millions d'habitants, 3 millions de Russes et russophones. Donc c'est quasiment une cinquième colonne qui est très importante. Aussi, ils ont des territoires qui sont disputés comme l'est de l'Ukraine de la même manière. Donc, en fait, ils ont senti que ce danger russe venait et ils sont en train de le faire d'une manière très douce parce que donc Tokayev en même temps fait tout ce qu'il faut pour assurer Poutine. Donc, récemment, il a invité encore pour l'année prochaine quand il y aura la réunion traditionnelle des pays, des organisations qui n'existent que sur le papier. Il a invité aussi à Poutine à faire une visite d'État pour le rassurer, pour le calmer, etc. Mais en même temps, ils sont en train de préparer le changement de la constitution dans laquelle, justement, ils changent le rapport de la langue russe, en fait. Mais ils ont commencé par le décret, maintenant, ils font rentrer dans la constitution. Et puis après, de temps en temps, ils se permettent aussi de faire quelque chose d'assez intéressant. Par exemple, quand il y avait une délégation russe qui est arrivée avec une visite et qui s'attendait à ce que tout le monde parle russe, là, ils ont commencé à parler le kazakh. Et il fallait voir l'Europe et les compagnies qui étaient là au premier rang et qui cherchaient, en fait, le traducteur, enfin, l'écouteur pour écouter la traduction. Et ça, c'est les Kazakhs savent le faire. Enfin, en Orient, parfois, ils ont cet art, en fait, de l'immigration. Et après, Poutine, et je dois vous dire que Poutine n'est pas un stratège, c'est un très très bon tacticien, c'est pour ça qu'il reste 25 ans au même endroit, mais c'est un piètre stratège, et là actuellement il est en guerre directe avec l'Azerbaïdjan. Et Aliyev se permet maintenant de le critiquer ouvertement à Davos. Non, c'était à Munich, dans la conférence de Munich, et donc il a reproché à Poutine de frapper les représentations diplomatiques à Kiev d'Azerbaïdjan, Et Azerbaïdjan, d'ailleurs, a gagné cette guerre parce que Poutine a abattu cet avion, ce pauvre avion qui a survolé la Tchétchénie. Et au lieu de présenter ses excuses et de payer les familles, en fait, Poutine a dit non, ce n'est pas nous, nous n'avons rien à voir. Donc, en fait, il a fait son truc habituel. Et là, Aliyev ne pouvait pas. Alors, il ne s'est passé pas parce qu'en fait, ils ont quand même une sociologie qui est très forte à l'intérieur du pays, même si c'est une petite dictature, même si ce même Aliyev, il a participé quand même dans la guerre hybride contre la France, y compris dans tous les territoires d'outre-mer. En Nouvelle-Calédonie, vous avez les sites azerbaïdjanais qui remplissaient les réseaux des saloperies par rapport à ça. Et donc, d'ailleurs, en fait, ça nous montre que cette guerre hybride ne vient pas que de la Russie. Hein. Donc, il y a d'autres puissances, y compris les puissances toutes moyennes, qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur ces scènes et de leur donner une certaine crédibilité. Ben, il y a Azerbaïdjan dans la guerre hybride. Ils ont contacté aussi les séparatistes basques, les séparatistes espagnols de d'autres régions. Et donc, en fait, tout ce qui est séparatiste en Europe, en fait, ils ont contacté. Dugin, lui, il a réuni il y a quelques mois à Saint-Pétersbourg, il a fait l'international néo-nazi, où il a réuni une vingtaine de représentants de petites organisations, mais en proclamant quasiment nous, les fascistes du monde entier, nous sommes là pour nous réunir, etc. Donc en fait, ils ne se cachent pas du tout. Donc en fait, cette guerre, et le problème de cette guerre, c'est qu'elle est multiforme, elle est multifacette, et elle est trop facile maintenant. Elle est tellement facile avec les moyens de communication modernes, c'est ça qui est désespérant parfois.
Oui, sur l'asymétrie dont tu parlais, Nicolas, il y a un problème d'ordre philosophique. Nous, démocratie occidentale, on est à même à utiliser la manipulation du mensonge pour frapper nos ennemis. C'est-à-dire qu'on emploie les mêmes méthodes que nous dénonçons tous les jours. J'ai eu ce débat en plateau il y a 3 ans, et j'ai vu, y compris Michel Goya, lever les yeux au ciel en disant waouh, comment, bah non, nous, les Français, on doit utiliser des méthodes.
Petite réponse à cette question. Tu sais, il y a une convention de Vienne de 1963 qui s'appelle la Convention sur les relations diplomatiques. Et en fait, cette convention internationale que tout le monde a signée interdit formellement d'utiliser les représentations diplomatiques pour autre chose que les diplomatiques.
Voilà, on est rassuré.
Mais par exemple, nos services de renseignement, la DGSE, elle mène une centaine d'actions illégales chaque jour. Les services de la France, je veux dire, le directeur général de la sécurité extérieure, chaque jour, le fait déjà de procéder à un agent sous identité fictive, c'est illégal. De franchir un contrôle policier à l'aéroport avec un faux passeport, c'est illégal. Je ne parle même pas du reste. Donc c'est un vrai problème philosophique. Moi, je pense qu'à partir du moment où nous rentrons dans un conflit informationnel, oui, nous devons être nous-mêmes de porter des coups. Mais comme le disait Cyril, le vrai problème, c'est que la symétrie, elle est très importante parce qu'effectivement, l'espace du net, des réseaux sociaux, etc., est beaucoup plus restreint dans les autocraties, dans les dictatures que dans les démocraties. Donc les démocraties sont beaucoup plus vulnérables, en fait, à ce type d'attente. Donc nous devons trouver d'autres moyens, effectivement, surtout en travaillant sur les terrains en périphérie, périphériques, je pense notamment à l'Afrique, et ne pas renoncer, nous, à cette capacité, justement, de faire mal à nos ennemis, de la même manière que les adversaires de France ne nous font absolument aucun cadeau. Donc nous devons trouver des moyens à même, que nous ne sommes pas obligés de revendiquer, les services de renseignement ne revendiquent pas leurs actions. Malheureusement dans ce pays, oui, malheureusement. Et donc nous devons, je pense, être à même de pouvoir riposter.
Petite note d'optimisme. Vous savez, à l'époque soviétique, là où j'appartenais à l'organisation qui s'appelait le KGB, on disait que le KGB est partout, c'est super puissant, c'est tout, il tiennent tout le monde, etc. Je vous rappelle quand même que cette organisation, en 1991, en octobre, a été dissoute par Gorbatchev. Elle ne s'est pas protégée elle-même. Elle n'a pas su protéger le parti communiste dont elle était le bras armé. Elle n'a pas su protéger l'Union soviétique pour laquelle elle travaillait. Donc, que les Russes font des attaques et font des opérations partout dans le monde, ils essaient de le faire. Je vous rappelle que Poutine a perdu la Syrie, que Poutine maintenant a perdu le Venezuela, enfin, où il est en train de perdre, peut-être pas encore, mais déjà pour beaucoup, qu'il a lâché des rangs quand il y avait la guerre de l'année dernière, et il a clairement, en fait, pas soutenu les Iraniens. Les protections antiaériennes soviétiques et russes ont prouvé que finalement ils n'étaient pas si puissants qu'ils le racontaient dans tous les salons militaires dans le monde quand ils le vendaient, et que ni en Venezuela ni en Iran ça n'a pas fonctionné. Donc ne présumons pas non plus la superpuissance russe face à nos démocraties vulnérables, les démocraties qui ont des moyens. Si on amasse ensemble les États-Unis, le Occidental, c'est quand même
important. Parce que dans le débat, il y a aussi la guerre hybride menée peut-être par les États-Unis d'Amérique, donc on n'a pas évoqué ici. Voilà.
Alors on va passer aux questions.
Allô.
Wow. Oui, à un moment donné, je vous avais dit le PIB est 30 fois, je crois, inférieur à celui des États-Unis. C'est un fait. Il faut quand même reprendre le PIB PPA par rapport au pouvoir d'achat. Il semble, je crois, mais je ne sais pas si vous savez, que les États-Unis produisent moins d'ingénieurs, avec une population très supérieure, moins d'ingénieurs que les Russes. Ça, c'est une donnée du problème. Beaucoup moins d'avocats, c'est sûr, beaucoup moins d'énarques, beaucoup moins de ceci, beaucoup moins de cela. Mais les ingénieurs sont plus nombreux. Et les Américains compensent, notamment par les moyens. Regardez la Silicon Valley, la plupart des chefs, des dirigeants d'entreprise sont des moyens. Voilà. Ensuite, pour l'Afrique, parce que j'en profite, pour l'Afrique, il faut quand même voir les erreurs colossales qui ont été commises par les politiques françaises. Et d'autant que, dans les années 60, il y a des pays africains qui étaient déjà contrôlés par les soviétiques à l'époque. Par exemple, les soviétiques, que ce soit la Guinée, que ce soit le Soudan à l'époque, c'était connu. Moi, je connais un petit peu la Centrafrique. On a abandonné la Centrafrique aux Russes. C'est un abandon. C'est ça qui s'est passé. Et puis, alors, surtout, on intervient de façon beaucoup plus directe. On donne des conseils. C'est l'arrogance française qui a fait rejeter la France par les Africains. Ceci dit, sur le plan économique, les entreprises françaises sont toujours très impliquées et sont très cotées. En fait, quand on parle de rejet, il y a un rejet politique. Pas du tout économique.
Voilà ce que je voulais dire. Sur les ingénieurs, je te laisserai le micro sur la fin. Sur les ingénieurs, bien évidemment, c'est très très bien, mais c'est le passé glorieux. Vous savez, c'est la même chose. Je m'engueule toujours avec un certain nombre d'experts qui parlent de l'espace russe, de Gagarine, etc. C'est terminé. Hein. La Russie est inexistante. La Russie, là, actuellement, possède 100 satellites sur l'orbite. Tandis que Elon Musk avec son SpaceX, c'est entre 8 et 10 une simple entreprise. Je doute par rapport à cette histoire d'ingénieurs, parce que quand vous avez la société qui a des ingénieurs, vous avez la société qui marche, mais aussi ne marche pas. Faites un
un pas en dehors de Moscou, vous verrez où sont les ingénieurs et où sont les constructions d'ingénierie russe qui ils savent produire des chars, hein, il n'y a aucun problème. Mais d'ailleurs, on se pose des questions s'ils le savent vraiment. Hein. Parce que les derniers temps, vous savez ce qui se passe les 15 dernières années, il y a plus d'électronique russe dans les missiles russes qu'il y a d'électronique de l'OTAN qui est dans les missiles russes. Moi, j'ai habité la ville de Zelenograd, je dois vous dire qu'il est détruit, qu'il n'y a plus personne. Il y a des jeunes qui sont avec les tournevis, qui reçoivent tout de la Chine, ou des autres pays qui produisent l'électronique. La Russie ne produit aucune électronique. Et donc, en fait, il y a un mythe aussi par rapport à ça. Mais en revanche, c'est vrai qu'avec peu d'argent, ils peuvent produire plus que les produits aux États-Unis. Parce que quand on parle du budget américain de 20 millions pour le Pentagone, il ne faut pas oublier que pour deux tiers, ce sont les salaires et les retraites des militaires. Hein. Et ce n'est pas forcément l'argent qui va dans les chars, dans le maintien des installations militaires. Mais la Russie, c'est un colosse sur les pieds d'agile. Donc c'est la précision. Et en revanche, je suis absolument d'accord. L'Inde a meilleur avis, il y a plus d'ingénieurs. Enfin, je crois que les ingénieurs et les gens qui sont dans l'industrie IT sont les ingénieurs. Aux États-Unis, c'est la majorité sont les ingénieurs.
Oui, alors juste sur l'Afrique, juste quelques mots. J'ai beaucoup travaillé sur une Afrique francophone, en Afrique australe, mais c'est les problèmes d'une Afrique francophone. Effectivement, de nos communes des erreurs politiques, on n'en serait pas là, évidemment. Mais j'observe quand même que depuis quelques mois, il y a un renouveau d'ambition française en Afrique. Je vous rappelle qu'on a signé un accord de coopération de défense avec le Kenya jeudi dernier, en zone anglophone, que nous n'avons pas d'accès à Madagascar, malgré quand même la position délicate dans laquelle nous nous trouvions. Nous maintenons quand même un lien très important avec la junte à Madagascar. Jeter le bébé avec l'eau du bain à terme d'arrivée, que nous avons renoué des contacts avec Mahamat Idrissa au Tchad, qui s'est rendu en visite de travail il y a quelques jours à Paris, et avec lequel d'ailleurs nous avons renoué un accord de défense, qui est confidentiel, mais qui existe, parce que tout accord de défense avait été rompu en juillet 2025, si je me souviens bien, avec un désengagement notamment des forces armées françaises de la base de Ndjamena. Donc on assiste tout de même, je pense, à une reprise en main des ambitions françaises sur l'Afrique, en réassumant notre présence et notre influence économique qui demeure, grâce justement à l'action des grands groupes français industriels qui, eux, n'ont pas accompagné le désengagement de politique publique de la France en Afrique. Je pense que c'est important de le noter. Surtout, nous avons l'intelligence aujourd'hui de nous placer dans des diplomaties à 360 degrés et à encourager les Africains à avoir cette diplomatie très multilatérale et à nous inscrire avec nos forces. Et en parlant de guerre informationnelle, nous, on a une force considérable quand même. Pas très cher qui est là depuis... longtemps en Afrique, c'est notre langue. Et la francophonie, c'est aussi une arme de guerre au service de la France. Parce que des millions de jeunes Africains parlent encore le français, que c'est tout de même un véhicule en termes d'idées, de valeurs et de culture qui est considérable, et que nous devons utiliser la langue française que nous avons en partage pour justement retisser des liens très forts avec les Africains.
Allez-y. Alors, je suis juste un simple citoyen et j'ai trouvé que pendant une grande partie de la conférence, on sentait l'image d'impuissance de la France à travers vos prises de parole. Ce que je trouve un petit peu dommage, je suis ravi que là, on commence à se poser la question de que fait-on, que peut-on faire, comment agit-on. Et moi, je fais des initiatives, c'était formidable. Et donc, dans cette question de que fait-on, j'ai bien compris que dans le domaine de la guerre informationnelle, on ne peut pas grand-chose parce que on s'attaque à des pays où l'information est complètement verrouillée, donc il y a besoin de cette partie-là. Mais il y a une partie dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le hacking. Et donc, on a la SNCF à deux reprises qui est attaquée au JO, enfin bref, il y a plein d'exemples. La France est attaquée de ce point de vue-là. Est-ce que que la France s'autorise à faire la même chose contre la Russie. Et si elle le fait, est-ce qu'elle le dit? Moi, je n'ai jamais entendu la France dire on a mené des actions de représailles. Est-ce que... Voilà, moi, je suis un peu triste cette image d'impuissance que dégage la France. Et on pourrait peut-être avoir une posture un peu plus offensive.
Non, j'ai juste deux mots sur l'offensive. De toute manière, je pense que les options sont sur la table. Après, c'est une question de décision politique. Et on a quand même, je pense qu'on déjoue en permanence des petites semaines. Des cyberattaques sont déjouées.
Ça, c'est de la défensive, par
contre. Ça, c'est de la défensive. Mais, oui, c'est de la défensive, mais néanmoins, c'est important quand même d'avoir un bouclier qui fonctionne. C'est-à-dire, comme cyber dans les armées, ça fonctionne très bien. Il y a de plus en plus de moyens qui sont dégagés pour les armées en matière de défense cyber, je pense qu'on est armé. Les Jeux Olympiques, en dehors effectivement du sabotage sur les voies SNCF le vendredi, donc précédant la veille de la cérémonie d'ouverture, en dehors de ça, malgré toutes les menaces, on a pu faire face. Bien, imaginez l'organisation de la cérémonie d'ouverture. Moi, j'ai discuté avec le patron de Louis Evans, en milieu ouvert, occupé de tous les QR codes, hein, à la fois des gens qui participaient le long de la scène à l'événement, mais aussi tous les gens qui pendant 10 jours ont circulé le long de la scène. Il y a 4 millions de QR codes. Et là, le génie français, des ingénieurs français, de jeunes start-up, etc., capables de contrôler 4 millions de personnes avec un criblage de sécurité, c'est un exploit que très peu de pays sont capables de faire.
Ça, c'est bien de dire. Voilà. Cocorico. Bravo. Alors, deux commentaires rapides. Alors, d'abord, juste un petit commentaire rapide sur le défensif. Parce que j'ai parlé de la défensif, ça ne m'en fait pas. Pourquoi, chez nous, quand nous avons lissons une attaque, par exemple le ministère de l'Intérieur, là, les ouvriers, je ne sais pas, des officiers qui combattent, qui ont eu un problème, pourquoi ça nous pousse beaucoup plus que, par exemple, l'Allemagne, parce qu'en France, c'est un des pays beaucoup plus centralisés. En Allemagne, c'est beaucoup plus décentralisé, donc si jamais ils vont attaquer un land en Allemagne, ils vont avoir des données sur le land, mais ils ne vont pas avoir sur tout le territoire. C'est-à-dire que nous, nous aimons beaucoup la centralisation, donc potentiellement, vous pouvez avoir du dégât. Sur l'offensive, alors, les services d'enseignement ne revendiquent jamais quand ils font de l'offensive, bien entendu. Je crois qu'on compte qu'il y a parfois des attaques soi-disant du collectif Anonymous, c'était en fait le fait de certains services d'enseignement, alors, on ne va pas donner les détails, mais si vous voulez vraiment regarder sur des attaques, ce qui a un peu été dit sur de l'offensive, du cyber-offensive par nos services, alors je crois que c'était l'ouvrage qui était sorti il y a plusieurs années sur Bernard Squarcini, quand il était patron de la DCRI, qui racontait qu'ils avaient 3 hackers dans une maison de banlieue qui faisaient des choses pas très jolies, pas très légales pour le compte de la DCRI à l'époque. Et je voyais passer il y a quelques années une histoire de virus que la DGSE aurait implanté, c'était entre autres l'Algérie, l'Iran qui avait été ciblé, enfin c'était sur le net, hein, mais je ne sais pas si c'est vrai. Les tentatives pour détourner l'attention, je connais un peu de trucs, hein, d'abord. Non, apparemment c'était un virus informatique pour qu'il y ait des ciblés entre autres, l'Iran, l'Algérie, je crois, et c'était les Algériens qui disaient que c'était un coup de la DGSE, mais je pense que nous le faisons, mais bien entendu, nous ne l'avons pas fait l'histoire. C'est lui qui a remarqué les Américains qui parlent, les amis de tout le monde. C'est la règle.
C'est l'état d'esprit aussi. L'état d'esprit, je peux vous raconter l'anecdote, je peux la raconter puisque je l'ai publié dans un de mes livres. 2017. Donc, président Macron arrive à l'Élysée. Et Poutine essaie de faire quelque chose d'extraordinaire, parce qu'en fait, au mois de mai, il y avait le tricentenaire des relations diplomatiques entre l'Empire russe et la France, et le royaume français. Et donc, normalement, Poutine n'était pas prévu du tout. Donc, en fait, il y avait quoi qui était prévu? C'est le ministre de la Culture qui viendrait avec l'ambassadeur, qui prononcerait un beau discours. Il y aurait peut-être le ministre des Affaires étrangères russe qui viendrait. Et puis, Poutine fait savoir à Macron qu'il a envie de venir, et qui, en fait, il n'a pas dit que j'ai envie de venir. Il a dit que je viens. Je viens, c'est vous, c'est tout ça. Et le président de
président Macron qui arrive à l'Élysée, donc il a, s'il lui dit non, parce que c'est pas normal, en fait, tu peux pas quand même dire à vous, je viens ce soir chez vous manger, ben non, on attend qu'on vous invite quand même dans les sociétés normales. Mais c'est ça aussi, l'état d'esprit. En fait, Poutine s'en fiche par rapport à ça, donc en fait, c'est un bandit, et donc il a dit, moi je viens. Et si Macron lui refusait, c'est la guerre diplomatique. Et si Macron le recevait, c'est la France s'est couchée devant Poutine. Et donc, en fait, voilà. À cette époque-là, j'ai envoyé un petit mot à un copain qui est Hénard, qui était dans le cabinet de Macron, pour lui dire écoute, j'ai la solution. Il faut l'accueillir, mais il faut lui faire une saloperie la veille de sa venue. Ça veut dire qu'il faut lui faire à Versailles le tapis rouge et lui donner même le truc par lequel il fallait faire. Vous savez, il y a un scandale absolu culturel en France, c'est qu'il y a les cœurs des matons des prisons de Goulag qui sont venus en France pendant 15 ans en se présentant comme les cœurs de l'armée rouge. C'est-à-dire ils sont habillés en uniforme, mais en France, il n'y a personne qui fait le rapport entre l'uniforme des armées et l'uniforme des policiers. Et donc, en fait, vous savez, en 1928, il y avait les corps Alexandrov qui a été fondé par l'armée rouge, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, qui était des tournées célèbres dans le monde entier. Et puis après, à la dislocation du RSS, en fait, l'armée n'avait plus pris de sous, et donc les corps de l'armée rouge étaient en train de disparaître. Et il y a le ministère de l'Intérieur qui, lui, a fondé des énormes cœurs. Et en fait, eux, ils ont trouvé un escroc français qui a commencé à éditer les CD et à faire des concerts. Ils ont fait tous les zéniths en France, en Allemagne, en Suisse, partout. Et les pauvres Français étaient persuadés qu'ils venaient assister au cœur de l'armée rouge. Et en fait, c'était les cœurs différents. Il y avait toutes les radios, toutes les télés qui étaient tombées dans le pays, etc. Et donc, j'ai dit, en gros, au cabinet de Macron, vous faites sortir ça, ce scandale, et vous vous dites, voilà, les Russes ont fait un truc. C'est comme si on vous vendait du pétillant en disant que c'est le fricot. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est connu parce que la France protège les marques, elle protège le champagne. La France a obtenu de la Suisse l'interdiction de production de vin pétillant qui est produit en Suisse dans le canton de Neuchâtel, dans un village qui s'appelle Champagne. Et le village qui s'appelait Champagne avant la Champagne française. Ils ont réussi, les Français ont réussi à interdire aux Suisses de faire du champagne dans ce village qui s'appelle Champagne. Et en fait, on m'a répondu, non, on ne sait pas. Ce ne sont pas nos méthodes. Non, non, non. Bon, après, le président Macron, quand il y avait la conférence de presse, il a répondu, il a juste refusé à répondre à Rachel Today et à Sputnik, qui ont circuler des saloperies énormes sur lui, sur sa femme, pendant toute la campagne électorale, et il a dit, je ne vous réponds pas parce que vous n'êtes pas les médias, vous êtes les médias, vous êtes les moyens de propagande. Mais donc, en fait, ça en dit long. J'espère que depuis, nous sommes quand même déjà 9 ans plus tard, et que cet esprit, œil pour œil, dent pour dent, c'est les Israéliens, ça ne pose aucun problème. Et d'ailleurs, on donne toujours un exemple que Mossad, ils sont allés chercher leurs criminels dans le monde entier quand ils ne pouvaient pas les faire extrader, ils les aiguillaient sur place, ou ils les exfiltraient en respectant aucune loi, rien du tout. Donc c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, mais effectivement, intellectuellement et philosophiquement, ça nous pose quand même un problème. Est-ce qu'on peut répondre dent pour dent, mais en même temps, nous, collègues qui sommes dans le service secret, vous savez, vous allez faire quelque chose de légal, il ne faut pas avoir des services secrets. Hein. Les services secrets, les services spéciaux, d'ailleurs, ils ne sont pas secrets, ils sont spéciaux, ils sont faits que pour ça.
D'ailleurs, à l'occasion de Vladimir Poutine à Versailles en 2017, qui était le premier chef d'État invité par le jeune président Macron, reçu à Versailles, c'est la première fois d'ailleurs que la guerre internationale a été dénoncée par le chef de l'État devant Vladimir Poutine en dénonçant justement
donc hein, devant le président Poutine, qui ne bronchait pas, qui avait son masque, etc. Mais c'est la première fois que la France dénonçait justement des méthodes de guerre informationnelle directe.
Il y a quelqu'un qui a un micro là. On va laisser parler.
Oui, d'ailleurs, j'ai peut-être un élément de réponse à ce qu'il disait tout à l'heure à propos des informaticiens, des ingénieurs dans le numérique, en particulier informatique. Si les grands patrons dans la Silicon Valley sont souvent indiens, n'oublions pas les Chinois. Les Indiens et les Chinois forment chaque année 300 000 ingénieurs informatiques. Les deux. Les Chinois n'usurpent pas leur capacité à faire des choses dans l'industrie électronique. Moi, j'ai deux petites questions, mais assez rapides. La première, c'est qu'on a bien fait la partie informationnelle, si je peux dire, mais on n'a pas trop parlé du physique. Bon, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a ce qui s'appelle le sabotage, mais en fait, on détruit les câbles. Hein. Et là, est-ce que vous auriez peut-être des éléments d'informations sur, en dehors des surveillances par les bateaux, par tout ce qu'on veut, en termes de surveillance, c'est assez simple, mais après, éventuellement, pour lutter contre ce problème-là, en dehors de regarder les bateaux. Après, une autre question, c'est, de la manière dans la guerre hybride, il y a aussi les sanctions. On a vu apparaître un grand volume au sein de la guerre Ukraine-Russie. Économique ou de divers ordres. Hein, on a le 19e paquet, je crois, en Europe. Mais on voit aussi depuis quelques temps une folie de l'Occident se mettre en charge, en chasse, entre autres, de quelques cargos, de quelques pétroliers de la flotte fantôme, dite fantôme. On a vu ça arriver, ok, on a tapé 4 là, entre les Américains et les Américains, il y en a 2 qui sont partis déjà, ils ont donné quelques bilans. Mais jusqu'où pensez-vous qu'on va pouvoir jouer cette police, enfin internationalement reconnue, face aux Russes et peut-être aussi à des alliances avec d'autres Russes, les Chinois ou autres qui vont les bénéficier?
Alors on pense qu'il y a entre 600 et 1000 bateaux qui participent aux opérations de la flotte fantôme, sans parler de la flotte fantôme aussi iranienne, pour contourner les sanctions qui frappent l'Iran. Donc vous comprenez bien qu'avec le nombre de bâtiments de surface que nous avons, enfin, que la marine nationale, dont la on dispose de la marine nationale, c'est compliqué. Donc on est obligé de faire des exemples, de frapper en faisant des exemples, mais ce ne sont pas des exemples anodins qui ne font pas mal dans la mesure où quand vous arraisonnez un bateau, vous lancez aussi un signal à tous les traders qui font ce type de commerce, et à Genève et à Dubaï. Vous avez fait un signal éventuellement aux assureurs, pour être amené à assurer ce type de cargaison, aux affréteurs aussi. Donc, c'est pas simplement le frapper physiquement un navire, c'est de frapper toute la profession qui est derrière. Parce que quand vous perdez un navire et sa cargaison, c'est entre 40 et 80 millions de dollars selon le chargement, donc ça coûte cher, et donc on frappe au portefeuille. Maintenant, quand même, il y aurait peut-être des moyens beaucoup plus efficaces qui seraient de fermer certains détroits, je pense notamment au Danemark, de fermer la Baltique, hein, aux navires, à tout navire russe. Alors, c'est une décision de l'Union européenne qui concerne aussi les atteintes au droit à la mer, de la mer. Devant un amiral qui doit en savoir beaucoup mieux à ce sujet. Mais si on veut être vraiment efficace et réaliste, ben voilà, il va falloir peut-être fermer certains détroits, y compris Gibraltar. Il y a énormément de navires qui passent Gibraltar pour ensuite décharger leur pétrole et sur les côtes marocaines, égyptiennes, syriennes, libanaises, etc. Donc il y a aussi la question du contrôle des détroits qui est assez intéressante, mais qui soulève d'autres problématiques.
D'ailleurs, la réponse a été déjà trouvée partiellement, parce que je vous rappelle qu'il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, il y avait la grande réunion de 14 pays de Baltique, plus le nord, dans la mer du Nord, y compris par l'Islande, qui s'est rattachée, et qui, en fait, ont trouvé surtout le moyen juridique. En fait, ils ont signé un papier comme quoi il y a le moyen de respecter, de faire respecter en fait aux Russes les demandes des conventions internationales, parce que avec ces bateaux fantômes qui pensent de pavillon, etc., etc., en fait, ça peut être considéré comme un délit en fait, maritime, et donc du coup, en se réunissant, on peut agir, y compris se basant sur les conventions existantes. Et par rapport à la Baltique, ça fait très très mal, tellement mal, que Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a répondu, mais vous savez, si vous chassez nos tankers en mer, nous, on va les faire accompagner pendant les bateaux militaires. Et donc là, je regarde comment la mer. ça va concerner déjà les marines de ces 14 pays. Comment on va faire? Parce que là, on passe à un autre stade de confrontation qui peut nous amener vers la guerre bien chaude.
Alors, pour les sous-marins, personnellement, je sais que les Chinois et les Russes travaillent sur un sujet, ils pensent détecter éventuellement les sous-marins qui. Alors, je ne sais pas où ils en sont. Côté russe, ce que je peux vous dire, ils ont créé. Alors, la question de l'exploration sous-marine en eau très profonde, ils ont pensé des examens. En fait. Et ensuite, ils ont formalisé ça, c'était vers un équipement, une direction au sein du ministère de la Défense qui s'appelle Groubi. Doivent prévenir Groubi, je ne sais plus le nom. C'est une direction principale pour les études en eau profonde. C'est leur spécialité. Ils ont des bâtisses cap, ils ont même des sous-marins dédiés. Plus amusant encore, j'ai fait des recherches sur cette direction il y a quelques années. Et qu'est-ce que je découvre? Ils ont une base en Crimée, je crois que c'était Sébastopol. Et il y avait des annonces sur le site du ministère russe de la Défense. Pour recruter pour cette base, ils recrutaient des dresseurs d'animaux marins. Donc, vous avez eu cette anecdote sur les. Un beluga, oui, avec une caméra de GoPro qui se serait échappé dans l'enclos, je pense que peut-être ça vient de cela. Quand je dis qu'ils font l'exploration en profond, c'est surtout réparer les câbles sous-marins, mais aussi poser des systèmes d'écoute sur les sous-marins adversaires. Je crois qu'on pense que cette direction dépend du ministre de la Défense en personne. Sur les sanctions, je vous rappelle, il y a quand même un arrêt qui a beaucoup attiré mon attention, c'est que tout arrêt de la Cour européenne qui est sorti le 11 février dernier. Grosso modo, nous avions mis sous sanction la fille de M. Decarré, donc le patron de la société Transnet. Nous l'avons remis sous sanction à plusieurs reprises parce que la CJUE disait sans arrêt les sanctions ne sont pas fondées, parce qu'il faut au moins une chose, la CJUE fait un contrôle très approfondi. Je vous renvoie ici sur l'affaire de l'arrêt de la CJUE Kadhi, que j'avais examiné quand j'étais un jeune étudiant de droit. Et là, la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, a poussé une gueulante contre le Conseil de l'Union européenne en lui disant. Vous avez de nouveau remis des sanctions en violation complète avec le droit, donc là, et sans justification supplémentaire, donc ça suffit. Et là, ça veut dire que potentiellement, d'autres sanctions, éventuellement, que nous avons prises contre d'autres citoyens dans le cadre du conflit, peuvent éventuellement tomber, car là, la CDE a dit très clairement, vous ne pouvez plus remettre des sanctions sur une personne alors que nous avons considéré que c'est illégal et que vous n'avez pas apporté de justification supplémentaire et suffisante.
Compléter sur les câbles, je rappelle que pour le monde occidental, 95% des télécommunications passent par le câble, par les câbles sous-marins. Et que nous avons la France, une responsabilité importante, 18 câbles sous-marins d'envergure pour terminal Marseille, qui devient d'ailleurs l'un des sites de stockage de données, de data les plus importants, peut-être les plus importants en Europe. Et ces centres de data, de données, sont ciblés par les Russes. Et on aura certainement des attaques sur les câbles sous-marins en Méditerranée dans les prochains mois, malheureusement.
Ok, merci. Alors, il est déjà presque 8h20, donc c'est assez animé, mais encore une question peut-être.
Il y a quelqu'un qui veut poser une question en fait.
Oui, encore. Alors, allez-y.
Bonsoir. D'abord, merci pour vos propos. Moi, j'avais une question, je voulais revenir sur les propos de monsieur, pardonnez-moi, je n'ai pas retenu votre nom. Vous parliez tout à l'heure de la perméabilité de nos sociétés occidentales à la désinformation et à la guerre hybride, et vous avez très justement remis chaque citoyen devant sa responsabilité. Mais quid de la responsabilité, j'ai envie de dire, immensément coupable de toutes nos élites occidentales, je pense au monde politique, je pense au monde culturel, et toutes les autres, hein, médiatiques et autres, qui contribue au quotidien à saper la confiance que les citoyens peuvent avoir dans leurs élites. Je pense notamment au monde politique. Aujourd'hui, quand on a un président de la République qui a un taux de satisfaction de 12%, est-ce que ça ne contribue pas aussi à accentuer cette perméabilité à la propagande, à la désinformation, etc. etc.
L'une des bases du populisme, enfin l'une des bases, c'est de s'attaquer aux élites. Moi, je véhicule un tout autre discours. Je véhicule le discours que nous avons la chance d'être dans un pays avec des élites, avec des grandes écoles qui produisent de grands ingénieurs, polytechniques par exemple. Nous avons des corps d'État, nous avons des gens qui pensent bien, qui pensent vite, qui sont bosseurs. J'ai travaillé en cabinet ministériel. Donc j'ai été au contact des narques, d'Ixmin, j'ai été fasciné par leur capacité de travail. Alors effectivement, leur discours peut paraître tout à fait, par rapport aux citoyens normaux, un discours très particulier, une langue particulière. Mais néanmoins, l'État fonctionne. On le voit en ce moment dans les grandes difficultés politiques que connaît la France. On a vu notamment pendant les périodes où il n'y avait que le Premier ministre qui était nommé, où il y avait des gouvernements de transition, l'État français, les armées, fonctionnaient formidablement bien. Donc c'est une grande chance, au contraire, d'avoir des élites, d'être dans un pays qui fonctionne et qui est dirigé par des élites. Et moi, c'est vraiment un rebours complet du discours populiste à l'encontre des élites. Je mesure tous les jours ma chance de diriger. Voilà, d'être dans un pays dirigé par des gens intelligents. Voilà,
c'est surtout aux élites politiques. Parce que le spectacle politique qu'on a aujourd'hui en France depuis de nombreuses années, vous en avez parlé.
Malheureusement, des élites, le spectacle politique qui nous est donné. Parce que le niveau, franchement, des 577 députés de l'Assemblée nationale, quand j'étais en cabinet ministériel il y a maintenant plus de 30 ans, je suis désolé, mais le niveau était bien supérieur en termes de, justement, en termes de diplôme, d'aujourd'hui. Le monde politique, tout s'est abaissé. C'est exactement le même problème en Russie, où les élites sont parties faire des affaires plutôt que de rester dans le parti et dans la conduite du pays.
Si je peux répondre, si je partage votre constat, j'ai envie de demander bien qui la cause, qui les élit. Voilà, qui élit, qui vote pour telle ou telle personne à l'Assemblée nationale, ou à la présidence de la République, ou en tant que maire. Voilà. Sur les constats, bah oui, c'est vrai que ça finit toujours, bien entendu. C'est-à-dire que quand vous faites des mesures d'action, de la désinformation, deux possibilités, au fond. Première possibilité, vous inventez complètement. C'est dans le type, l'électronique qui avait créé cette mesure active sur le sida qui, soi-disant, viendrait des laboratoires américains de transport des prix. Ça a fait que l'on reste. Vous avez toujours des personnes dans les États-Unis qui sont convaincues que oui, c'était un coup du gouvernement fédéral, etc., etc. Ça a été démontré, je précise. Première possibilité, donc vous inventez. Deuxième possibilité, effectivement, vous appuyez sur un terreau. Je suis d'accord. Et effectivement, si jamais le pouvoir est vu comme affaibli, bah, évidemment, ils vont s'appuyer dessus. Donc, c'est toujours une question aussi de conviction. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas Macron et que vous voyez une fausse information sur, je ne sais pas moi, Macron qui se serait fait gifler par sa femme de manière violente, etc., vu que vous ne l'aimez pas, vous auriez tendance à la prendre plutôt au sérieux plutôt qu'une personne qui, lui, l'apprécierait. Je suis d'accord. Mais il y a un point quand même que je vais un peu nuancer la guerre hybride. Et c'est une question aussi d'ingérence. Quand je parle de terreau, est-ce que cela veut dire que si jamais, par exemple, pour prendre l'exemple du Brexit, est-ce que les mesures de soutien des pays prises, par exemple, ont vraiment fait basculer le scrutin? C'est-à-dire, quand vous regardez un peu avec l'anglais moyen, je ne suis pas sûr qu'il était trop pro-Union européenne et pro-bureaucratie, paperasse, etc., etc. Donc peut-être que parfois ils appuient sur le bouton pour donner un coup de main, mais ça ne veut pas dire que ça va permettre de basculer. Peut-être que le terreau était déjà.
Et moi, je voudrais rajouter juste un truc, c'est que ce qui m'exaspère, c'est que. Bien évidemment, on critique les politiciens ou les élites en France et dans les pays de l'Europe occidentale. En revanche, ce qui m'exaspère, c'est que c'est parce que vous n'aimez pas Macron qu'il faut aimer Poutine. Mais le problème, il est là. Il est là, tout souvent. C'est qu'en fait, les gens, ils n'aiment pas Macron, ils disent, mais Poutine, il est génial. Putain, mais
là, en Russie, vivant aussi, alors il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. En revanche, les Russes, eux, les élites russes, ils ont leurs fils ici, ils ont leurs femmes qui sont ici. Et pourquoi actuellement ils sont tellement touchés par les sanctions? Parce qu'on leur interdit de venir choper, faire du shopping, de venir skier à Courchevel, etc. etc. C'est ça qui m'exaspère. Oui, critiquer, oui, parce qu'on peut critiquer dans les pays occidentaux, c'est ça, aller critiquer Poutine en Russie, aller prononcer le mot guerre en Russie, 8 ans de prison. Moi, je n'y pas depuis 25 ans, j'étais tranquillement en faisant mon travail ici comme expert ou comme étudiant. Ils m'ont proclamé agent étranger. Ils sont allés me chercher là, et ils m'ont proclamé agent étranger. Au mois de décembre, ils m'ont collé une amende comme quoi je ne vivant pas en Russie, je ne respecte pas les obligations qui sont selon eux établi pour les agents étrangers, et dans un mois, ils vont me condamner par contumace à la peine pénale et polier mon appartement qui reste à mes cousins à Moscou. Voilà, c'est ça le souci. Il faut regarder un peu plus loin qu'est-ce qu'on propose. Oui, Macron, vous pouvez ne pas l'aimer, mais vous savez, c'est un milieu de politique, c'est génial. Il y a un Américain qui dit le temps de Brezhnev, vous savez, vous êtes des minables, parce que moi, aux États-Unis, je peux sortir et dire Reagan est un connard. L'autre qui me dit, mais vous savez, nous sommes encore mieux. Moi, je peux sortir sur la place rouge et dire Reagan est un connard.
Ben écoutez, ce sera le mot de la fin, je crois. Voilà. Un très, très grand merci pour cette démonstration, pour cette bonne humeur, pour cette discussion animée. Et puis, merci d'être venus nombreux, parce qu'il y avait du monde aussi en visio. Donc, il y avait plus d'une centaine de personnes qui assistaient ce soir d'un côté et de l'autre. Et donc, je vous donne rendez-vous en avril, où on reviendra plus à des choses franco-françaises sur l'appareil de défense. Voilà.